Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Europe 1, 14h-15h, la voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Nicolas Carreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre. Cette semaine, Tatiana de Ronay est là pour nous parler de son nouveau roman qui est aussi l'un de ses tout premiers. Vous allez comprendre, nous lirons un roman culte, L'Assommoir de Zola. C'est Tatiana de Ronay justement qui a choisi la page. Nous visiterons une bibliothèque, bien sûr celle d'Anne Parillo aujourd'hui. Nous irons nous balader dans une librairie, comme toujours, direction Vaucresson. Et ce grand enfant de Victor Dolande fermera la boutique avec son roman jeunesse, évidemment. Mais d'abord donc, c'est l'invité. La Voix est libre, c'est parti. Premier chapitre. Bonjour Tatiana de Ronay.
Bonjour Nicolas Carreau.
Je suis content de vous voir.
Moi aussi.
Vous publiez Célestine Dubac chez Robert Laffont. On va rentrer dans le détail, mais avant, il faut quand même nous raconter l'histoire du livre.
Oui, c'est une histoire assez incroyable. Donc, il faut resituer, on va partir en arrière. On est entre 1990 et 1993. Donc, j'ai très précisément l'âge de mes enfants aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai entre 29 et 31 ans. J'ai déjà publié un premier roman chez Fayard, qui s'appelait L'appartement témoin. Et Célestine Dubac était le roman que j'ai écrit juste après. Et il a été refusé, parce qu'il était inclassable. Il n'a pas plu à ce moment-là.
C'est dur, ça.
Ah, ça a été dur. Et puis très naïvement, parce que j'avais signé un contrat où il y avait un droit de suite, je pensais que ça voulait dire que l'éditeur allait publier le livre d'après, mais ça ne veut pas dire ça du tout, en fait, je le sais maintenant. Et donc, j'avais remisé Célestine Dubac dans un grand carton, dans ma cave, où il y a tous les manuscrits, tout ce que j'ai pu écrire à partir de l'âge de 10 ans, parce que c'est à 10 ans que j'ai commencé à écrire. Et donc, il y a des contes, il y a des romans d'amour, il y a de la science-fiction, il y a de la poésie, il y a un journal intime, il y a tout ce que vous voulez. Donc, Célestine Dubac est allée dans ce carton. Je l'ai oublié, je suis passée à autre chose, j'ai publié autre chose. Et lors de tous mes déménagements, ce carton me suivait de maison en maison. Bon. Et puis, il y a un an et demi, je décide très courageusement d'aller faire un peu de ménage dans ma cave.
Pendant le confinement, alors ?
C'était avant le confinement, je dirais que c'était fin 2019.
C'est terrible, maintenant, ça devient un marqueur temporel,
oui,
le confinement.
Absolument. Ouais. Je descends cette cave, je vois ce carton, et je me dis, tiens, je vais quand même ouvrir, c'est drôle. Il y a écrit dessus « Ne pas publier si je meurs ». Parce qu'il y a quand même mon journal intime que j'ai tenu 20 ans. Donc ça, si c'était publié, ce serait vraiment une catastrophe. Et qu'est-ce que je vois ? Un manuscrit cartonné. Et il faut quand même vous expliquer, Nicolas, que vous êtes beaucoup trop jeune pour vous en souvenir, mais à l'époque, tous les ordinateurs qu'on avait à l'époque ne sont plus là. Il n'y avait pas de clé USB. Il y avait des disquettes. Et donc, je n'avais ni disquette, ni ordinateur de l'époque. Il y avait juste ce manuscrit papier. Donc, je le remonte. Je me dis, tiens, j'avais oublié ce roman. Je plonge dedans. Je trouve qu'il a une certaine sincérité, qu'il a quelque chose de très frais, très spontané. Mais je n'arrive pas à juger. Et donc, je le donne à mes éditeurs, qui, eux, tombent amoureux de ce texte. Et ce qui est assez fou, c'est qu'il devait sortir avant. Il y a eu le confinement. Il y a eu tout ce qu'on sait. Et donc, il a été reculé jusqu'à maintenant. Donc, Célestine Dubac est restée confinée 30 ans dans sa cave pour sortir aujourd'hui. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'elle a une répercussion aujourd'hui qu'elle n'aurait pas eue avant. Ce livre-là, il y a 30 ans, peut-être serait passé à côté de quelque chose. Aujourd'hui, ce lien social, cette amitié, parce que ce livre parle d'amitié, eh bien, il a tout son sens aujourd'hui.
Il était une fois donc Martin Dujeu, un jeune homme de bonne famille, 18 ans, du côté de la rue du Bac à Paris, donc Saint-Germain-des-Prés, tout ça très chic. Son père est avocat, mais il a perdu sa mère dans un accident d'avion quand il avait 2 ans. Il tient beaucoup d'elle, physiquement en tout cas, elle était suédoise. Il est très 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 blond, voire blanc de cheveux, très grand aussi, presque 2 mètres. C'est un peu le grand Duduche, si on veut, dégingandé, il ne sait pas trop quoi faire de ses bras et des jambes. Au passage, il a les pieds palmés, il n'a qu'un ami, Duval, enfin 2 si on compte son chien, Germinal, 3 si on compte Zola, l'écrivain dont il est fou. À part ça, il a raté son bac deux fois. Il n'aime pas beaucoup la nouvelle fiancée de son père, Alexandra, la énième fiancée de son père d'ailleurs. De loin, on pourrait croire que c'est un glandeur qui ne fait rien de ses journées, mais en fait, il écrit un roman. Et puis, il y a une rencontre, Tatiana de Ronay, une rencontre plutôt improbable.
Oui, ce sont deux solitudes qui se rencontrent. Donc Martin qui est dans sa bulle, qui remarque personne, qui ne voit rien, qui a vraiment une passion dans sa vie. Émile Zola, d'ailleurs le roman qu'il écrit s'articule autour d'Émile Zola. Et puis il y a cette fameuse Célestine qui est dans une porte cochère, rue du Bac. Personne ne remarque, ça fait partie de ces femmes de l'ombre qu'on ne voit pas. C'est SDF sur lequel le regard ne s'accroche pas. Et un jour de pluie, Martin va prendre abri sous cette porte cochère où il y a une voix très désagréable qui lui dit « Ah, qu'est-ce que tu fous là? Dégage, t'es chez moi !» Et là, il se retourne. «
Taille-toi de là, Eddie.
Taille-toi là !»
J'aime bien le «
Grande année !» Et donc, du coup, il va se rendre compte que bah, y a quelqu'un là et que c'est une femme qui est en train, à califourchon, sur un carton, en train d'écrire. Donc, il dit « Pardon, madame, excusez-moi. » Elle lui dit « Casse-toi. » Et là, il la voit, en fait. Et tous les jours, il va lui dire « Bonjour. » Elle va finir par lui répondre. Et là, il va se passer quelque chose d'assez spécial, d'assez surprenant. Cette femme sans âge, abîmée par la vie, l'alcool, et ce jeune garçon pas sûr de lui, en fait, elle va lui transmettre quelque chose et elle va l'aider à prendre son envol dans la vie.
Est-ce qu'il l'intrigue, Martin? Est-ce qu'il est réuni au fond? C'est justement parce qu'elle est en train d'écrire. Et lui, il a envie de savoir ce qu'elle écrit.
C'est ça.
Et c'est vrai qu'on a toujours envie de savoir, quand quelqu'un écrit, qu'est-ce qu'il peut bien écrire. Comme un peintre qui peint, tout le monde s'agglutine derrière. C'est, d'ailleurs, ça les saoule beaucoup, les peintres en général. Mais un écrivain ou même quelqu'un qui écrit sur un petit carnet, il y a une curiosité tout de suite.
Bah, le roman est né il y a donc toutes ces années. Rue du Bac, il y avait une SDF qui était au coin de la rue du Bac et de la rue Babylone et qui écrivait dans un carnet, qui était assez agressif, c'était difficile de lui parler. Et elle écrivait. Et moi, ça me fascinait. Et ce livre est né parce que je me suis demandé qu'est-ce qu'il y avait dans le carnet de cette femme SDF que personne ne voit et que personne ne regarde.
Et personne ne la voit, mais tout le monde la connaît, Célestine Dubac ou Titine Dubac, parce que les clochards ont des noms d'Aristo dans votre roman. Gaspard de Verneuil, ouais, par exemple.
Moïse d'Aquin.
Alors, je ne sais pas si c'est des gens que vous connaissez, mais c'est vrai qu'il y a parfois cette dignité-là chez certains SDF, des grands airs, l'air de dire « je ne vaux pas moins que vous » et peut-être même « je vaux plus ».
Et d'ailleurs, Martin Dujeu, il ne comprend pas. Il, quand elle lui parle de Gaspard de Verneuil à un moment, il pense qu'il a affaire à un Aristo.
Un philanthrope. Ouais.
Voilà, qui a toute la rue. Et il comprend que les SDF s'appellent, se donnent des noms de rue, en fait. Mais Célestine Dubac, je trouve que c'est un nom qui lui va très bien parce que pour elle, cette rue lui appartient en fait. C'est son royaume, même si personne ne la considère comme une reine. Mais dans ce livre, elle est la reine de cette rue, oui.
Il y a beaucoup d'observations aussi sur le rapport qu'entretiennent les gens dits normaux, enfin qui n'ont pas de problème particulier financièrement avec les clochards. Et il y a le truc très fameux où en fait il lui a donné 100 francs un jour et puis il croise le marchand de légumes à côté qui lui dit « tu sais, tu ne devrais pas lui donner d'argent parce qu'en fait c'est pour aller acheter du vin et entretenir son alcoolisme ». Et à la fois d'après, il refuse de lui donner de l'argent en lui disant « je peux aller vous acheter quelque chose si vous voulez ». Ça, c'est un truc qu'on apprend, moi, qu'on a appris en tout cas. Mais en fait, elle est très vexée de ça et on se rend compte, moi, j'y ai pensé en lisant le roman, on se dit que c'est vrai qu'il y a une forme de condescendance là-dedans finalement.
Bien sûr.
Tu fais ce que tu veux, quoi. T'es responsable, c'est parce que t'es clochard que j'ai à choisir de ce
fait,
que tu vas acheter. Quoi.
Cette agressivité-là qu'elle a envers lui, il va la contourner parce qu'il va d'abord l'inviter au restaurant. Tous les gens qui sont à cette terrasse sont absolument outrés de voir arriver une SDF qui mange d'ailleurs d'une façon, on va dire, un petit peu exagérée et voilà, pas des très bonnes manières. Et puis, il y a surtout cette scène où Martin décide de l'inviter chez lui, chez son père. Son père est parti pour un week-end. Malheureusement, le père va rentrer plus tôt que prévu et là, il va y avoir une scène horrible.
Je vous arrête tout de suite, Tatiana, parce qu'on ne peut pas tout dire.
Non, d'accord.
Moi, j'adore cette scène, il faut la découvrir. Oui. Non, stop.
Bah,
justement, on fait une pause et on reprend au début. À tout de suite.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre. Nicolas Carreau.
La Voix est libre continue toujours avec Tatiana de Ronay pour son nouveau roman Célestine du Bac chez Robert Laffont. Tatiana de Ronay, dans ce roman, on sent que vous êtes très attachée à vos personnages, les héros en particulier, Célestine du Bac, Martin Dujeu, le héros, mais aussi le petit chien Germinal, mais aussi Duval, qui est marrant, qui est le copain de Martin. En revanche, le père de Martin tient une place assez forte dans le roman aussi. Et je vous trouve pas sympa avec lui. Parce que je trouve que, alors il est, c'est vrai que c'est un type assez riche et parfois un peu méprisant et un peu taiseux éventuellement. Mais il fait de son mieux. Il a perdu sa femme il y a 20 ans. Il fait comme il peut pour élever son fils qui dit jamais rien. Qui est particulier quand même.
C'est vrai qu'au début, je ne suis pas tendre avec lui. D'ailleurs, en relisant ce texte, j'ai tout de suite vu, mais je ne vous dirai pas qui, sur qui ce personnage est basé. J'avais oublié. Voilà.
Donc il va se reconnaître
ou pas ? Non, c'est quelqu'un qui n'est plus là. D'accord. Mais ça m'a beaucoup fait rire. Et c'est vrai que Victor Dujeu est un peu une caricature d'un homme qui aime se considérer un grand séducteur, qui est un grand avocat, qui a un certain mépris pour son fils. Et petit à petit, là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que je trouve que bon, il va lui arriver quand même pas mal de péripéties, dont une, d'ailleurs, qui fait pas mal rire. Hein. Il va se retrouver dans une situation assez épouvantable, dans un lit, on n'en dira pas plus. Bon, j'avais oublié ce passage-là, j'ai ri aussi. Mais je trouve qu'à la fin, il est fier de son fils, en fait. Il est fier, il ne savait rien de son fils. Il ne savait pas que son fils écrivait. Il ne savait pas que son fils était amoureux. Il ne savait pas que son fils souffrait tellement de ce deuil impossible. Et ce deuil impossible est très, très important dans le livre, parce que dans cet accident d'avion, la maman de Martin, la femme de Victor, on ne retrouve pas son corps. Quand il n'y a pas de tombe et quand il n'y a pas de corps, on ne peut pas faire son deuil. C'est quelque chose que je connais malheureusement, douloureusement très bien, puisque je l'ai vécu lors de la disparition de mon oncle Arnaud de Ronay, en 84, entre la Chine et le Taïwan. C'était un grand philiplanchiste, il a disparu, il n'a pas de tombe. Donc ce deuil impossible, je le connais. Et Célestine, on ne dira pas comment, va aider Martin à affronter ce deuil impossible.
Parce que Martin, c'est pas qu'il se persuade, mais il garde dans la tête que peut-être, éventuellement...
Mais c'est ce qu'on fait, vous savez, pour moi,
Arnaud...
Arnaud Ronay peut revenir du jour au lendemain.
Il y a un autre personnage assez intéressant, qui est Alexandra.
Ah, elle plaît beaucoup, Alexandra.
Ben voilà.
Elle vous a plu ?
Pas trop, non. Hein, pas trop, mais...
Elle est assez vénéneuse et...
Voilà, vénéneuse, c'est exactement le terme. Mais surtout, elle est très sensuelle aussi et il y a des scènes de sexe.
Oui.
Olé, olé.
Et donc, j'avais oublié que... Je me suis dit, mais pourquoi il n'y a plus de scènes de sexe dans mes livres ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que je me bride ? J'étais beaucoup plus courageuse à 30 ans qu'à bientôt 60. Donc, il faut quand même que je remette certaines scènes de sexe dans mes livres parce que... D'abord, elles ne sont pas non plus choquantes, hein, on est d'accord.
Non, elles sont parfaites.
Mais bon, elles sont là, elles donnent un certain rythme au livre, et je me suis dit, mais bon, je vais en remettre. Donc Célestine est en train d'influencer le livre que j'écris maintenant, vous voyez ?
J'allais vous poser une question, mais ça en dirait trop sur l'intrigue. Non, je ne peux pas. en revanche, ce qu'on peut dire, c'est que Célestine du Bac a une particularité, en tout cas une générosité, qui fait qu'elle essaye de rendre service. Et elle va proposer à Martin de trois vœux. Trois vœux qu'elle essaiera d'exaucer comme elle peut. J'essaie de pas trop pour dire.
Non, mais c'est pas mal.
Mais ce serait quoi vos trois vœux ? Parce que ça, c'est le motif du génie, en fait.
Alors, c'est vrai aussi qu'on peut prendre ce livre comme une sorte de conte.
C'est ce que j'allais dire. Ouais.
Sans... Il y a peut-être un aspect surnaturel, mais en tout cas, moi, je laisse mon lecteur libre de juger. Quand Martin va donner ses trois vœux à Célestine, ils seront exaucés ou pas d'une certaine façon. Donc, il y a toujours cette petite frontière, genre, est-ce que Célestine a des pouvoirs ou pas ? Est-ce que c'est l'imagination de Martin ? Et en fait, j'ai envie de vous dire que, jusqu'à la dernière page du livre, au fond, c'est qui Célestine ? Est-ce qu'elle a vraiment existé ? Est-ce qu'elle est dans la tête de Martin ? Est-ce qu'elle est son ange gardien ? Est-ce qu'elle est notre voix intérieure qui nous guide, qui nous permet d'avancer ? Moi, j'aimerais bien avoir une Célestine dans ma vie. J'aurais bien aimé en avoir.
Mais alors, pour lui demander quoi, justement ?
Alors, j'ai un vœu très perso que je ne peux pas dire parce que ça concerne quelqu'un que j'aime tendrement. Mais mon premier vœu serait pour cette personne qui est très, très proche de moi. Et je voudrais que Célestine s'occupe de cette personne très proche de moi. Ensuite, je voudrais que Célestine me permette de voler un peu comme Superman.
Ah ouais, ça c'est chouette.
Vous vous rappelez de ce film, Superman, quand il arrive sur la terrasse de la journaliste. Voilà, donc moi, je voudrais être Superwoman et j'arrive et je vous emmène, voilà, on fait le tour comme ça de Paris.
Enfin, je viens de visualiser.
Ah non, mais c'est fantastique, non? J'adorerais faire ça.
Et troisième vœu?
Troisième vœu. Alors, qu'est-ce que je pourrais... Alors là, vous me prenez à court, là.
En avoir 10 autres.
Finalement, c'est très personnel, les vœux.
Ouais, c'est vrai. Bon, mais je vous laisse à vos vœux.
Oui, d'accord.
Juste une petite question technique.
Oui.
C'est au présent de narration.
Oui.
Ce qui est une technique assez moderne. Enfin, plus moderne que... C'était pas les années 90.
Alors, je vais vous parler de ça.
Vous avez changé?
Il y a trois choses qu'on a changées.
Qu'est-ce que vous avez changé, d'ailleurs? Oui, merci.
Il y a trois choses qu'on a changées dans le livre. D'abord, on voulait vraiment le garder dans son jus des années 90. Pas d'Internet, pas d'euros. On voulait vraiment le garder dans sa tessiture... 90s. Mais justement, il était au passé, ce livre. Et ça, c'était l'idée de mon éditeur, Glenn Tavanek, de le mettre au présent. Et je trouve que ça lui donne un petit coup de peps. Deuxième chose, le chien s'appelait à l'origine Cadet Cassis. Est-ce que vous savez qui était Cadet Cassis?
Pas du tout.
C'était le surnom de Coupeau dans l'Assommoir.
Ah ouais, d'accord.
Mon livre fétiche. Et donc, personne ne savait qui c'était. Donc, on s'est dit, Germinal, tout le monde va savoir qui est Germinal. Donc, le chien s'appelle Germinal. Et dernière chose...
Il y a Gorgonzola aussi, comme surnom pour...
Alors, il y a Gorgonzola. Alors, ça, c'est le livre
Zola.
De Martin.
Voilà,
on dit rien. Et la dernière chose qu'on a changée, ou plutôt qu'on m'a demandé d'allonger, il y a au cœur du livre une lettre de transmission, on n'en dira pas plus. Dans le manuscrit d'origine, c'était juste une phrase. C'était la dernière phrase de cette lettre. Mm-hmm. Et là, on m'a dit, bon, Tatiana, maintenant, tu nous fais la lettre... Voilà, la lettre qui est vraiment le maillon du livre. Et donc, ça a été très impressionnant pour moi de me repencher dans ces personnages que j'ai quand même créés il y a si longtemps, de reprendre la voix de Célestine, en fait. Ça m'a beaucoup émue. Mmh. Et d'ailleurs, je ne vous cache pas qu'en écrivant cette lettre, j'ai versé ma petite larme.
Mais vous y pensiez encore, Célestine? Vous aviez complètement oublié ce roman.
Alors, ce qui est très drôle, c'est que les trois personnes qui sont citées à la fin du roman, les amis proches qui lisent tout mon travail, régulièrement me disaient « Mais Tatiana, quand même, tu ne trouves pas que tu devrais montrer ce livre à tes éditeurs? Tu ne crois pas que ça pourrait marcher ?» Et moi, je disais « Non, je ne crois pas. » D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que ce refus m'a fait plonger ensuite dans une certaine noirceur dans mes livres. Je suis vraiment allée vers le côté obscur de la force. Mmh. Et je me rends compte aujourd'hui que on peut parler des choses tristes et dures, mais avec une certaine lumière, avec une certaine résilience. Parce que Célestine, c'est pas facile sa vie, ce qui lui arrive non plus, mais il y a une certaine légèreté, une certaine fraîcheur dans ce texte.
Il y a une chouetterie.
Voilà.
Dans le sens chouette.
Et donc du coup, c'est comme si Célestine arrivait comme un boomerang pour me dire, Tatiana, je te mets en garde, ne va pas tout le temps vers la noirceur des choses. Regarde aussi la lumière. Et donc, je crois que je l'avais oublié parce que je pensais que c'était pas ce qu'on voulait lire. Et aujourd'hui, je pense, en 2021, je pense que c'est peut-être ce qu'on a envie de lire, justement, une histoire qui apporte de la lumière.
Le livre est dédicacé à votre grand-père, Gaëtan. Oui. Pourquoi?
Parce que pendant que je l'écrivais, il est mort. Et c'était la première fois que je perdais un être cher. J'avais donc à peine 30 ans. C'était un peintre. Je l'aimais beaucoup. Et il est mort brutalement.
Vous lui avez dédié à l'époque, en fait?
Oui, oui, bien sûr.
Ah, c'est pas là où vous vous êtes dit, tiens,
mais rien n'a changé dans le livre.
D'accord.
Vraiment, on a tout gardé. J'ai juste les remerciements qui ont changé et la lettre au lecteur à la fin.
Juste quand même, le manuscrit, il était dans une boîte où il était indiqué ne pas publier si je meurs.
Oui, c'est ça.
Est-ce que vous n'avez pas trahi un peu la personne de vous-même quand vous aviez 30 ans et que vous avez écrit ça?
Alors, j'ai quand
même... Qu'est-ce qu'on fait du reste?
Alors le reste, je pense, n'est pas publiable, franchement. Enfin, le journal intime, s'il est publié, j'espère vraiment être morte. Mais là, j'ai voulu faire confiance à mes éditeurs, sur le coup. On verra bien, j'espère que ce livre fera du bien.
J'en doute pas. Célestine Dubac, chez Robert Laffont. Merci Tatiana Deronet, vous
Merci,
restez
Nicolas.
Avec nous, puisque nous allons lire votre livre culte. Zola, évidemment. À tout de suite.
La Voix est livre. Nicolas Carreau.
Retour dans La Voix et Livre, il est l'heure du livre culte L'Assommoir, donc de Zola, publié en feuilleton à partir de 1876. C'est le 7e volume de la saga des Rougon-Macquart. Gervaise Macquart vit à Paris avec Lantier et leurs deux enfants, mais Lantier la quitte et Gervaise travaille comme blanchisseuse pour essayer de s'en sortir. Le roman s'appelle L'Assommoir parce que c'est le nom du bistrot, enfin du débit d'alcool, plutôt un alcool qui assomme ceux qui en boivent. C'est aussi un roman sur les ravages de l'alcoolisme dans le milieu ouvrier. Il y a une grande scène emblématique dans ce roman, la scène du lavoir. C'est celle que vous nous avez demandé de lire, Tatiana de Ronay. On écoute Philippe Dussault et vous nous dites pourquoi après.
Salope, salope, salope ! Hurla Gervaise, hors d'elle, reprise par un tremblement furieux. Elle tourna, chercha une fois encore par terre et, ne trouvant que le petit baquet, elle le prit par les pieds, lança l'eau du bleu à la figure de Virginie. « Ross, elle m'a perdu ma robe !» cria celle-ci. Elle avait toute une épaule mouillée et sa main gauche teinte en bleu. « Attends, gadou !» À son tour, elle saisit un seau, le vida sur la jeune femme. Alors, une bataille formidable s'engagea. Elles couraient toutes les deux le long des baquets, s'emparant des seaux pleins, revenant se les jeter à la tête, et chaque déluge était accompagné d'un éclat de voix. Gervaise elle-même répondait à présent « Tiens, saleté, tu l'as reçu celui-là, hein ? Ça te calmera le derrière. Ah, la carne ! Voilà pour ta crasse. Débarbouille-toi une fois dans ta vie. Oui, je vais te dessaler, grande morue. Encore un ! Rince-toi les dents, fais ta toilette pour ton quart de ce soir, au coin de la rue Belhomme. » Elles finirent par remplir les seaux au robinet, et, en attendant qu'ils fussent pleins, elles continuaient leurs ordures. Les premiers seaux, mal lancés, les touchaient à peine, mais elles se faisaient la main. Ce fut Virginie qui, la première, en reçut un en pleine figure. L'eau, entrant par son cou, coula dans son dos et dans sa gorge, pissa par-dessous sa robe. Elle était encore toute étourdie. Quand un second la prit de biais, lui donna une forte claque contre l'oreille gauche en trempant son chignon qui se déroula comme une ficelle. Gervaise fut d'abord atteinte aux jambes. Un seau lui emplit ses souliers, rejaillit jusqu'à ses cuisses. Deux autres l'inondèrent aux hanches. Bientôt, d'ailleurs, il ne fut plus possible de juger les coups. Elles étaient l'une et l'autre ruisselantes de la tête aux pieds, les corsages plaqués aux épaules, les jupes collant sur les reins, maigries, roidies, grelottantes, s'égouttant de tous les côtés, ainsi que des parapluies pendant une averse.
L'Assommoir d'Émile Zola, lu par Philippe Dussault. Tatiana de Ronay, vous êtes toujours avec moi. Vous publiez Célestine Dubac chez Robert Laffont, qui est aussi un livre dédié à Zola. L'Assommoir, c'est votre livre culte. Et pour la première fois, vous avez même choisi le passage lu. D'habitude, on lit toujours la première page. Vous m'avez dit non, il faut lire la scène de la bataille du lavoir. Pourquoi ? Et pourquoi L'Assommoir ? Et pourquoi Zola ?
Alors, imaginez-vous dans une classe de troisième, quelque part dans le 17e arrondissement de Paris, avec une prof de français très soporifique, qu'on n'écoutait jamais. Et un jour, elle nous a dit qu'il fallait qu'on lise Émile Zola, L'Assommoir, et elle nous montre un gros livre, et tout le monde fait « Oh !» Et elle nous explique qu'elle va nous lire un passage de ce livre. Là, on s'apprête à dormir, s'envoyer des petits mots, bref. Et elle commence par lire ce passage que nous venons d'entendre. Et là, nous sommes électrifiés par ce que nous venons d'entendre. Nous sommes replongés dans ce lavoir, nous voyons cette bataille entre ces deux femmes qui montent en puissance d'une violence mais inouïe de description. On sent les odeurs de Javel, on les danse, cette humidité, ces femmes qui finalement terminent à moitié nues. Donc du coup, le soir même, je me jette sur cet assommoir. Et là, Nicolas, comment vous dire ? C'est un choc amoureux, littéraire. Donc, j'ai lu tous les Rougon-Macquart à la suite, que je suis en train de relire maintenant, avec une différente lecture. Il y a même des hashtags sur les réseaux sociaux, lisons les RM, Tatiana and Zola. J'ai fait relire Zola à plein de gens. Beaucoup de gens avaient oublié Zola, en fait. Pourquoi Zola ? Parce que Zola, comme le dit Martin dans le livre, dans Célestine Dubac, Zola est un romancier qui vous donne tout, en fait. Il vous transporte ailleurs. Vous voyez tout. Vous voyez, vous écoutez, vous entendez, vous sentez. D'ailleurs, c'est très difficile de choisir le Rougon-Macquart préféré, tellement les descriptions de Zola sont, allez, on va utiliser un mot moderne, démentes. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que relire Zola aujourd'hui, il n'a pas pris une ride. On le relit avec toujours autant de plaisir. Thérèse Raquin, un de ses premiers romans, ça aussi, ça a été un choc avec la scène de la morgue. Donc moi, j'incite tout le monde à relire Zola, à redécouvrir Zola, et même ses lettres d'amour, parce qu'il avait une double vie, ses lettres à sa femme et ses lettres à sa maîtresse, Jeanne, sont à la fois très attendrissantes, très touchantes, et puis il ne faut pas oublier non plus que c'est Zola qui a écrit cette lettre, J'accuse, et qui est peut-être mort. D'ailleurs, sa mort est très ambivalente, hein. Il est peut-être mort à cause de ce courage, et en tout cas, il est mort très jeune, à 62 ans.
Je suis sûr qu'il y a au moins, allez, pour être même pessimiste, au moins 3 auditeurs qui, en vous écoutant, vont se plonger et devenir des fous de Zola.
J'espère.
Et ceux qui l'ont déjà lu vont y retourner.
À suivre, visite de bibliothèque, nous partons chez Anne Parillaud. À tout de suite.
14h-15h sur Europe 1. La Voix est libre.
La Voix est libre continue, nouvelle page. Anne Parillaud est actrice, vous la connaissez, Nikita, Anne d'Autriche aussi dans L'Homme au masque de fer, mais Anne Parillaud écrit aussi, elle publie Les Abusés, son premier roman chez Robert Laffont. C'était l'occasion de visiter ses livres. Allons-y. Bonjour Anne Parillaud.
Bonjour.
Merci de nous recevoir chez vous. On est dans un petit couloir. On a passé un salon où il y avait une petite bibliothèque. Je me suis dit, ça sera largement suffisant. Puis vous m'avez dit, non, c'est les livres, ils sont dans ce couloir-là. Et effectivement, c'est un long couloir avec énormément de livres. C'est une bibliothèque très complète et surtout beaucoup, beaucoup de romans. C'est quoi votre rapport au livre, à l'objet livre?
C'est intéressant que vous parliez d'objet, parce qu'effectivement, ça commence par là. C'est un objet que j'aime, qui est beau la plupart du temps, qui a un esthétisme, qui a une élégance, qui a une délicatesse. Et on sait qu'à l'intérieur, il y a de la nourriture, il y a du matériel, voilà, pour l'esprit. Et de savoir qu'on part en voyage avec cet objet à quelque chose de merveilleux.
C'est symptomatique, d'ailleurs, vous les avez classés par maison d'édition. Et il y a des vieux poches, les tout premiers, avec les très très belles couvertures illustrées. Il y a des vieilles collections blanches de Gallimard, il y a des poches plus modernes, etc. Et puis un truc qui m'intrigue, c'est que sur certains livres, il y a une petite gommette rose ouverte. Ça correspond à quoi?
Alors en fait, ça c'est un de mes fils qui a un peu la même passion et le même amour que moi pour les livres. Et on se bat avec les livres, et donc il met des étiquettes pour ceux qu'il estime être les siens ou ceux qui sont très importants pour lui. Donc voilà, il a marqué d'un post-it rose tout ce qu'il fallait jamais, jamais abandonner, jamais perdre, jamais éloigner.
Copain, rien, quoi.
Non, voilà.
Toujours au sujet de cet objet livre, je vois pas le vôtre qui serait mis comme ça au milieu, ou alors justement les cartons, vous venez de le publier, vous recevez des cartons de services de presse à donner ici et là. Vous l'avez pas installé encore dans votre bibliothèque?
Alors je me suis pas sentie légitime à me mettre encore au milieu de tous ces chefs-d'œuvre, mais en revanche il est dans ma chambre. Et effectivement, je me réveille avec et je m'endors avec.
Et ça vous a fait quoi de publier un livre, au-delà évidemment du sujet qui est très grave, mais je veux dire, le fait d'avoir votre livre avec votre nom en haut et tout ça, est-ce que ça vous a fait le même effet que quand vous êtes retrouvé sur une affiche de cinéma?
Non, pas la même chose. Ah non, c'est une émotion vraiment, vraiment différente. C'est une émotion extrêmement puissante d'un acte créatif en solitaire. Et donc, de pouvoir assumer, à l'inverse, justement, d'un rôle où on peut se cacher derrière, où on est l'outil d'un metteur en scène et au milieu d'une équipe, le livre est vraiment quelque chose qui vous ressemble, il n'y a rien à faire, qui provient de votre âme, de votre esprit, de votre regard, et le fait de pouvoir assumer comment vous écrivez, ce que vous voulez dire, et d'accepter de ne pas être aimé, alors que en tant qu'actrice, on cherche cet amour à tout prix, et si on ne l'obtient pas, on n'est pas entièrement responsable.
Et on peut accuser le réalisateur ou voilà. Lumière, quoi.
Le livre, je serais la seule coupable du désamour que je créerais si on ne l'apprécie pas.
On passe au livre, on va un peu plonger dedans et il faut absolument qu'on commence
par Zola, puisque Tatiana de Ronet vient de nous expliquer à quel point elle adorait Zola. Et vous aussi, manifestement, vous en avez beaucoup. Et juste avant d'ouvrir les micros, vous m'avez sorti en particulier La Terre de Zola. Pourquoi celui-là? Qu'est-ce qui vous plaît chez Zola?
En fait, ce que j'admire, mais profondément, ce qui est pour moi le signe des immenses écrivains, c'est qu'effectivement, dès qu'on ouvre un de leurs livres, on reconnaît immédiatement leur plume. Et ça, ça montre à quel point ils ont cette particularité et cette singularité d'écriture. Et celle de Zola, je trouve que pour un auteur du naturalisme, il la transcende et la sublime avec son écriture. Il utilise des images. Et La Terre, je ne saurais plus du tout vous dire de quoi il s'agit. Ce que je sais, c'est que je l'ai lu très jeune et qu'à l'époque, j'ai eu mal au ventre quand je l'ai lu. Et ce personnage m'est resté. Il me semble qu'il s'agit d'une jeune fille qui était dans une souffrance et dans une incompréhension. Et je m'étais totalement identifiée à l'héroïne de La Terre. Je ne sais pas si... Je crois que c'est Germaine. Non. C'est Françoise. Voilà. Exactement. C'est le personnage de Françoise.
Et là, je vois dans vos yeux que vous la retrouvez. Elle était en vous.
Exactement.
Et alors, il faut juste que je vous en parle une seconde, mais j'ai vu qu'il y avait les mémoires de Monsieur d'Artagnan, qui est le livre qui a inspiré Les Trois Mousquetaires. Et moi, quand je suis arrivé ici, je me suis dit... Génial, Anne Parillo, c'est Anne d'Autriche dans l'adaptation des Trois Mousquetaires, enfin du Vicomte de Bragelonne, c'est-à-dire l'épisode du Masque de Fer, avec Leonardo DiCaprio qui faisait Louis XIV, et le Masque de Fer donc, puisque c'était son jumeau. Et vous m'avez dit, ah non, je ne suis pas du tout une fan de Dumas particulièrement. Vous ne vouliez pas être influencé en relisant le livre avant le film, parce que c'était quand même un personnage incroyable, justement.
Non, je pense qu'Anne d'Autriche, j'ai plus été intéressée à aller dans la recherche historique, plus que littéraire, à travers l'œuvre de Dumas. Dumas, je connais pas bien, c'est pas un auteur que je lis, parce que le peu que je connais, c'est une écriture qui ne me touche pas. Je trouve cette écriture trop romanesque, mais pas dans ce qui me séduit.
Allez-y doucement, parce que j'ai un cœur quand même, j'ai un cœur.
Ah non, je suis désolée. Non, j'aime les écritures brutes, ouais. Viscérales. Pour moi, l'écriture a quelque chose de monstrueux parce que on libère nos démons, nos abus, nos silences qui réclament la parole et qui demandent à être libérés. Et on libère ce qu'on porte en soi. Et je trouve que c'est intéressant que des gens comme Sade libèrent le mal dans le sens où ils ne se censurent pas et ils ne se posent pas la question de ce qu'on pensera. Ils se questionnent en nous questionnant et en nous mettant face à des miroirs où effectivement on est dans l'exploration de l'âme humaine, dans ce qu'elle a de plus obscur, dans ce qu'elle a de plus démoniaque. Et Sade décide de nous rappeler et de nous montrer des situations, des contextes dans lesquels on se retrouve plongé face à ces miroirs du mal.
Il y a Sade, mais il y a aussi Anaïs Nin, qui est plus l'écrivaine de l'érotisme et de la sensualité, en tout cas qui est connue aussi pour ça. Mm-hmm. Il n'y a rien de plus compliqué et de plus difficile d'écrire là-dessus. Mais de lire aussi, ça, c'est très compliqué aussi.
Ah oui, ça je suis d'accord, mais pour moi c'est une très grande écrivaine. En fait, elle est dans l'observation d'elle-même, et elle est totalement dans le ressenti. Et donc, il y a quelque chose là aussi de très authentique. Et en plus, je pense que c'est des auteurs extrêmement avant-gardistes qui n'ont pas eu peur de transcender les genres, de parler de bisexualité, de, je veux dire, tellement en avance et en fait totalement actuel par rapport au mouvement d'aujourd'hui où on cherche à casser tous les codes et toutes les normes et que ces gens-là étaient déjà... présents avec leur voix et leur désir de transgresser les règles.
Et alors, vous m'avez sorti un livre tout à l'heure en me disant qu'il fallait qu'on en parle, de Tolstoï, je ne l'ai jamais lu, c'est Résurrection, en version poche ici, avec une très belle couverture, une très belle illustration. Pourquoi vous aimez ce livre?
Alors, Résurrection, un peu à l'instar de La Terre de Zola, je serais incapable de vous dire... le sujet du livre, ce dont je me souviens et ce qui m'a profondément marqué, c'est que c'est un auteur, en tout cas dans ce livre, qui est en permanence accompagné du sentiment religieux, du sentiment mystique. Et c'est très, très important pour lui. Et je me souviens de cette lumière dans cet ouvrage, mais cette lumière et cette foi dans le fait qu'il y a des choses supérieures à nous, qu'il y a voilà, qu'on n'est pas forcément acteur de sa vie, mais plus serviteur, et que peut-être quelque chose au-dessus de nous connaît pour nous, et qu'il faut donc être à l'écoute de ce destin et avoir foi dedans.
Vous avez résumé tout à l'heure, à mon avis, le rôle de la littérature, si rôle il y a d'ailleurs, c'est quand on lit quelque chose qu'on n'arrivait pas à exprimer soi-même.
Oui, absolument. Pour moi, un livre, c'est on me prend par la main et on me dit « viens, on va se promener, on va parler ». Et donc, si cette conversation s'avère être enrichissante et s'avère être effectivement un partage d'idées et de se dire « ah, mais vous aussi, vous avez pensé ça alors que vous, vous êtes, voilà, on la place au panthéon de la pensée », c'est magnifique. Et moi, ça ne me fait pas peur, au contraire, ça me réconforte et ça m'encourage en fait.
Eh bien, on vous laisse à votre belle conversation avec tous ces écrivains. Merci beaucoup, Anne Parillo.
Merci beaucoup.
À bientôt.
Merci.
Retour en studio et je rappelle le titre du premier roman d'Anne Parillo, Les Abusés, c'est chez Robert Laffont. Dans un instant, plein d'autres livres. Il est l'heure des libraires. À tout de suite.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre.
Retour de La Voix est libre, il est l'heure de rendre visite à un libraire, direction Vaucresson, librairie L'Écriture, chez Thibaut Raden. Bonjour Thibaut Raden.
Bonjour Nicolas.
Merci de nous accueillir à la librairie L'Écriture, qu'on connaît bien dans La Voix est libre. Vous avez deux romans aujourd'hui, et alors je vais commencer par celui que je trouve vraiment magnifique. Je ne fais pas ça tous les jours, mais je fais un petit peu d'Instagram, comme ça, comme tout le monde. Et celui-là, cette couverture, quand je l'ai reçue, je l'ai mise tout de suite sur mon compte Instagram, tellement je la trouve magnifique. Vous nous parlez de ce livre qui s'appelle « Souvenirs de Marnie ».
Ouais, de Joanne J. Robinson. C'est vrai qu'elle est quand même jolie. Et tout sans l'ouverture, ils savent quand même faire de belles couvertures. Des tons un peu pastel, rosé, violet. On voit en fait une jeune femme, une ado, même sur une barque, qui est sur un étang, et il y a une grande maison au loin qui est très belle. Et en fait, quand on regarde les reflets sous cette barque, il y a non seulement son reflet à elle, à cette jeune fille, mais le reflet de quelqu'un d'autre. Et l'histoire de ce bouquin, c'est le reflet de ce quelqu'un d'autre. Marnie, en fait, c'est une jeune fille qu'on va rencontrer à un moment donné, où Anna, notre personnage principal, en vacances d'été, va dans une maison en province, en gros. Et alors qu'elle aime bien être seule, elle est même constamment seule, c'est ce qu'elle préfère, parce qu'elle est un peu particulière, les gens ont du mal à accepter qui elle est, elle va rencontrer Marnie, qui dit habiter dans cette maison, parce que cette maison a l'air très très peu habitée finalement. Et en fait, les deux vont se voir à peu près tous les jours, elles vont décider de faire plein de choses, et c'est la naissance d'une amitié qui est vraiment magnifique, jusqu'au jour où Marnie disparaît. Pourquoi, on ne le sait pas, mais elle disparaît. Et là, Anna va vivre d'autres choses, va comprendre plein de trucs. Et c'est un livre qui... J'y suis allé un peu à reculons parce qu'ayant vu le film qui avait été fait il y a quelques années, j'avais un peu peur parce que je n'avais pas aimé. Et en fait, là, j'ai été extrêmement touché. C'est un livre vraiment, vraiment magnifique.
Joanne J. Robinson, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, Souvenir de Marnie, en tout cas, ça c'est sûr, aux éditions Monsieur Toussaint, l'ouverture, vous ne pouvez pas louper la couverture. Aux éditions Zulma, magnifique aussi, Goran Petrovic, 69 tiroirs, qu'est-ce que c'est?
Alors ça, c'est un truc de dingue. Très clairement, ce livre, je pense que je vais essayer bientôt de l'élever au rang de Bible. 69 tiroirs, c'est pour les 69 chapitres que compose ce bouquin et pour les 69 claques que vous allez prendre à chaque chapitre. Vous suivez un jeune garçon qui a une vingtaine d'années, serbe si je ne dis pas n'importe quoi, ou croate, je ne sais plus. Et en fait, ce jeune garçon est étudiant et il vit dans un espèce de studio qu'il doit payer tous les mois. Et donc pour ça, il fait des corrections pour un journal. Et un jour, un monsieur qui a entendu parler de ses corrections, apparemment il est très doué, vient le voir pour lui demander de corriger un bouquin, mais qui est déjà en fait édité, relié, et qui est très beau et dans l'objet, c'est déjà un peu étrange. Et il lui demande de le corriger pour une somme absolument astronomique. Et donc lui, bah forcément, il va dire oui, hein, parce que quand on demande de l'argent, on donne de l'argent à un étudiant, il ne dira pas non. Et en fait, en corrigeant ce livre, il va se rendre compte qu'il n'y a rien à corriger. Et là où c'est particulier, c'est qu'en fait, quand il corrige le livre, il n'écrit pas dedans, il a même interdiction d'eux. Il fait que son pouvoir de lecteur, notre pouvoir à nous, c'est de rentrer dans ce livre. Quand il le lit, il est instantanément dedans. Et donc à partir de là, les corrections, c'est changer un rideau ou des trucs comme ça. Et quand il va le faire, il va se rendre compte pourquoi il n'y a rien à corriger. Et là, nous, on va apprendre l'histoire de la création de ce livre. Et c'est une histoire d'amour absolument, mais renversante. Vraiment renversante. Et donc en plus de vous parler d'amour, comme très peu le font, on va surtout vous parler de la lecture comme un super pouvoir, comme notre super pouvoir. C'est un éloge à la lecture absolument, mais c'est merveilleux. Et marqué époustouflant par Télérama, c'est encore plus que tout ça.
J'adore vos enthousiasmes, Thibaut Raden. Et souvent, vous avez raison, effectivement, je vous suis et vous avez souvent raison. 69 tiroirs de Goran Petrovic. Et je crois, il me semble que Christophe Daniel de la librairie La 25e Heure nous avait déjà parlé de 69 tiroirs, mais j'ai un doute. Et on n'oublie pas Souvenir de Marnie de Joanne G. Robinson aux éditions Monsieur Toussaint L'Ouverture. Merci beaucoup, Thibaut.
Merci, Nicolas.
À bientôt.
Retour à Europe 1 et merci à Thibaut Raden de la librairie L'Écriture, de Vaucresson. Tatiana de Ronay, vous êtes toujours avec nous. Il y a Célestine Dubac à la librairie L'Écriture chez Robert Laffont que vous venez de publier. Vous avez un rapport au libraire très... C'est quoi? C'est de l'amitié? C'est de la reconnaissance?
C'est un rapport très particulier. Et d'ailleurs, là, cette année a été vraiment terrible parce que toute cette tournée libraire que j'ai dû faire pour Les Fleurs de l'Ombre a été annulée. Je devais en faire 30. Pour Célestine Dubac, c'est encore un tout petit peu, on ne sait pas, on en a une au moins qui va être prévue en juin. Les libraires, c'est nos passeurs. C'est eux qui nous permettent d'avoir ce lien avec nos lecteurs. Le libraire est vraiment très précieux parce que c'est lui qui met en place nos livres, c'est lui qui conseille nos livres. Et c'est pour ça que je ne vais pas citer le nom de ce grand site marchand. Ce site vous conseille des livres par intelligence artificielle, mais il n'y a pas l'émotion derrière. L'émotion et la ferveur d'un libraire qui vous dit « Mais Tatiana, vous avez lu ça, c'est incroyable. » Et même souvent, moi, je vais voir les libraires et je leur dis « Attendez, vous avez lu celui-là ? » ?»« Non, pas encore. » »« Ah ben, lisez-le. » C'est vraiment important. Donc, moi, j'échange beaucoup de coups de cœur avec les libraires et ils regardent toujours les miens aussi sur Instagram. Ils regardent mes coups de cœur. Et d'ailleurs, ça arrive parfois que les libraires reprennent mes tweets ou mes phrases sur Instagram et les mettent sur les livres.
Échange de bons procédés. Restez avec nous, Tatiana de Ronay, dans un instant, la chronique jeunesse de Victor Delande.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre. Nicolas Carreau.
Et comme chaque semaine, on retrouve le conseil littérature jeunesse de Victor Delande. Bonjour Victor.
Bonjour Nicolas.
Aujourd'hui, c'est un roman intitulé « L'île sous la mer » de Xavier Laurent Petit.
Oui, je vous emmène sur Holland Island, dans la baie de Chesapeake, juste à côté de Washington, dans ce petit bras de mer. On est en 1917, c'est Marco qui nous raconte cette histoire, un petit garçon qui vit sur cette île de pêcheurs. Marco, il connaît absolument tous les secrets de cette petite bande de terre, ses dunes, ses marées, tous les oiseaux, il en est absolument fan. Sauf que ce petit garçon, il va être confronté à un double drame. D'abord, son grand frère, Tom, doit partir à la guerre. Oui, on est en 1917. Le jour de son départ, avant d'embarquer sur le bateau, il y a son petit frère qui lui a laissé un cadeau dans leur cachette secrète. Marco y court, suivi de Magda, une amie. La suite, c'est Ange et Olivia, élèves de CM1, CM2 de l'école d'En Raymond à Paris, qui vous la lisent.
Elle m'a pris la main. Et quand on a commencé à mieux voir, j'ai aperçu sur la banquette un petit objet enveloppé dans une page de journal.
Le cadeau de Tom!
Tu as deviné ce que c'est?
Je crois bien. Un harmonica! J'ai braillé comme un âne.
Youhou! Tom, je t'adore! C'est chouette, tu sais en jouer?
Non, mais je vais apprendre.
Tu as remarqué?
Remarqué quoi?
Tu ne bégayais plus.
Du coup, je me suis remis à bafouiller. C'est quand je suis bien avec les gens, je ne bégaye plus. Ça l'a fait rire. J'ai soufflé au hasard dans mon harmonica. C'était franchement moche. Mais Magda a trouvé ça tout à fait magnifique. Je lui ai tendu l'harmonica. Tu veux essayer? Et quand elle me l'a rendu, ça m'a fait bizarre de poser mes lèvres là où elle venait de poser les siennes.
Apercevu, ça sonne bien aussi.
Ça sonne, j'aime bien, c'est ouais, assez ça sonne très bien. Et il y en a plein de ces petites fautes volontaires dans le texte. C'est très bien écrit.
Vous avez parlé d'un double drame.
Ah oui, alors il y a une terrible aussi tempête qui menace d'engloutir l'île. Alors je ne vous raconte pas tout, je garde le suspense. Je peux simplement vous dire que Marco va tout faire pour ne pas laisser l'île à son triste sort. C'est un très beau roman, parfaitement adapté pour les enfants à partir de 9-10 ans qui vraiment commencent à bien lire. au niveau à peu près du CM1, justement, CM2.
L'île sous la mer de Xavier Laurent Petit, illustré par Amandine Delaunay, c'est aux éditions L'École des loisirs.
Oui, et puis à la fin du livre, vous trouverez un QR code, vous savez, pour écouter un podcast inédit
moderne,
qui accompagne ce roman. L'ensemble est vraiment magnifique.
Merci Victor. Et vous, Tatiana Deronet, c'est quoi le premier livre qui vous a marqué?
Alors, j'avais 8 ans, je vivais aux États-Unis parce que mon père travaillait là-bas et j'ai eu une prof extrêmement audacieuse et un peu folle qui a fait lire à la classe de 8 ans les histoires surnaturelles d'Edgar Poe et notamment Le cœur révélateur qui est juste le truc le plus terrifiant que vous pouvez imaginer. Et donc j'ai tout lu Edgar Poe avec une torche parce que je ne voulais pas que ma mère voie la lumière. Jamais eu super de ma vie.
À 8 ans, c'est ardos quand même.
Ah non, mais ça m'a donné envie d'écrire aussi. Hein. Et donc, ça a été peut-être le premier gros livre que j'ai fini. Et je vous conseille un excellent roman jeunesse, Nicolas, qui s'appelle Ursibel, par Caroline Jeanneresse, à la collection R, Robert Laffont. Un premier roman incroyable qu'il faut offrir à vos ados, à vos jeunes lecteurs, et qui vous emmène dans une autre galaxie, une autre planète, avec l'ourson Ursibel. C'est un des plus beaux textes jeunesse que j'ai jamais lu depuis très longtemps.
C'est nouveau ?
Oui, ça vient de sortir.
Parfait, bon, on va regarder ça. Merci beaucoup Tatiana Deronet, Célestine Dubac chez Robert Laffont. C'est votre nouveau roman. Merci beaucoup d'être venu.
Merci
nous voir.
À vous Nicolas.
Europe 1.
C'était la dernière page de cette émission. Merci à Agnès Vaudin et Marie Mougin pour la préparation. Et merci à Cyril Pascal, l'homme aux doigts de fée de cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. Salut.